Peut-être à vous lever, qu'on puisse prier ensemble, introduire ce temps de partage, d'adoration, de réflexion et de prière à notre Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons tous ensemble te louer, te dire notre attachement, notre amour pour toi, pour cette grâce infinie qui nous remplit de joie et d'espérance. Seigneur, au-delà des mots, nous voulons nous approcher de toi avec un cœur sincère, humble, et sachant que tu es un Dieu grand et saint, et que nous sommes pécheurs. Mais Seigneur, nous regardons à notre Sauveur, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, et qui revient bientôt pour rétablir toutes choses. Et c'est avec ce regard de foi, Seigneur, que nous voulons ce soir nous tourner vers toi, élever nos voix et dire notre attachement, renouveler notre alliance en cette soirée. Bénis-nous, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse venir en nous, remplir nos cœurs, nous accorder ta paix et ta joie intérieure et renouveler nos forces. En Jésus-Christ, Père, nous te prions, te demandons ces grâces. Amen. Merci. Je laisse la parole
au chant.
Au chant.
Eh bien, je vous propose de rester debout. Et pour nous inspirer dans ce temps de louange, je vous propose de relire quelques versets du psaume 115. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage des mains des hommes, elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et elles ne sentent pas, elles ont des mains et elles ne touchent pas. Elles ont des pieds et elles ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent tous ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Et plus bas, c'est marqué quelque part, qui donc dans le ciel est semblable à toi? J'aime bien ce passage qui nous rappelle que si ces idoles, elles ne parlent pas, elles n'entendent pas, elles ne voient pas. Nous, on a un Dieu qui entend, qui voit, qui touche, qui marche et qui est avec nous et qui est au ciel et qui est maître de toutes ces choses. Alors voilà, c'est pour chanter qui donc dans le ciel est semblable à toi.
Qui donc dans le ciel tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes.
Qui donc dans le ciel?
Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi? Toi. éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges, tu nourris. El Olam, Dieu éternel, Elohi, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant?
Maintenant de chanter ce chant-thème que je pense que vous commencez à connaître, alors n'hésitez pas à chanter fort.
Veille et prie, c'est lui chemin de l'éternité.
Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Merci pour ce beau chant thème qui nous inspire, nous donne de la joie et nous rappelle la puissance de la prière. Non, pas la puissance de la prière, la puissance de notre Dieu. Parce que finalement, la prière en elle-même n'a aucune force. C'est notre foi en un Dieu puissant qui rend la prière puissante. Et c'est vrai qu'en écoutant ce chant, ça me rappelait ça, finalement que toute la vie chrétienne se construit autour de la vie de prière. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, je pense que c'est un chrétien, comme on va le voir, qui a beaucoup de chance de s'endormir, de perdre cette flamme qui l'anime. Parce qu'on a besoin d'être en relation avec Dieu, on a besoin chaque jour vraiment de la présence de Dieu et du secours de Dieu. C'est dommage que très souvent on se tourne vers Dieu quand les choses vont mal, mais Dieu dans son humilité nous accueille toujours, même si parfois nous l'utilisons comme une roue de secours. Et je me souviens toujours de ma femme qui me disait « c'est dommage qu'on le voit toujours comme une roue de secours ». Et qu'on oublie que finalement, il pourrait être la roue avec laquelle on peut rouler tous les jours. Donc, pourquoi l'utiliser comme une roue de secours alors que nous pouvons rouler avec lui au quotidien ? Mais c'est lui qui nous porte par sa grâce. Je voulais vous partager, je pense que vous connaissez tous l'adage qui dit « un homme averti en vaut deux ». Puis je ne sais pas où j'ai entendu ça, je crois que c'est un humoriste qui avait repris un peu cette sagesse et disait plutôt, oui, un homme averti vaut un homme averti. Je crois qu'il connaissait bien l'être humain. Vous avez beau lui donner des conseils, l'avertir de choses, mais finalement, souvent nous n'en faisons qu'à notre tête et nous n'entendons pas. L'avertissement. Pourtant, on s'attend qu'un homme prévenu d'un risque et d'un éventuel danger soit supposé être sur ses gardes, être plus vigilant et plus prompt à réagir puisqu'il a été averti. Mais voilà, si on regarde l'exemple de Pierre et des apôtres qu'on a un peu étudié à travers ce passage au jardin de Gethsémané, on voit qu'ils ont pourtant été avertis par le Christ des événements tragiques à venir. Pierre avait été même averti de son triple reniement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un vous dit, oui, en plus c'est Jésus qui le dit, votre maître vous dit, toi tu vas me renier trois fois, puis toi, c'est bon, moi non, jamais, ça ne m'arrivera pas. Bon, déjà il faut certaines présomption, un certain ego. Mais il l'a quand même averti, et pourtant à l'heure venue, un homme averti vaut un homme averti. Alors, ne cherchons pas plus loin. De même, on peut se poser la question pour nous aujourd'hui, quand finalement l'Église de Dieu a été aussi avertie des événements de la fin des temps, cette dégradation de cette humanité petit à petit qui finance cette décréation. Voilà, Dieu nous appelle une recréation, mais sans Dieu, il y a une décréation où on retourne petit à petit vers le tohu-bohu initial, un magma informe et vide où la vie n'est plus possible, où il n'y a plus de repères, où la vie finalement s'éteint. On est averti de tout cela, mais finalement, l'avertissement de Jésus ne permet jamais d'appréhender totalement les prophéties bibliques et les événements à venir, et on n'est jamais totalement prêt, et finalement face aux événements qui arrivent on est encore surpris. Pourtant Jésus dit, ne soyez pas surpris lorsque vous verrez ça, mais au contraire réjouissez-vous. Mais quand ça nous arrive, finalement on ne se réjouit pas, mais on est encore surpris, étonné par les événements qui nous touchent. Et c'est vrai que voilà, nous avons été touchés sévèrement depuis au moins une année. Et finalement, on aurait pu être plus prêt que les autres à ce type de crise, d'événement. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien plus préparé que les autres. Voilà, c'est cette idée d'une humanité qui a du mal à entendre, à comprendre les avertissements, la parole de Dieu. C'est vrai que le texte dans Matthieu 26, au verset 40-41, on peut le relire une nouvelle fois. Il nous évoque finalement cette église, ces apôtres qui dorment, qui ne sont pas prêts, alors que l'heure est venue. Voici, l'heure est venue, c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure du combat, c'est l'heure où le salut de l'humanité va se faire, et ça va se passer dans la prière. Le combat, ça va se faire dans la prière. C'est le moment. Jésus va affronter tout seul cet événement-là. Il en prend trois avec lui, ceux qui sont les plus proches, ceux sur qui il pense pouvoir s'appuyer, mais ils dorment. Ils dorment à l'heure de la tentation, à l'heure des voici l'heure des ténèbres. Là, c'est le moment où il va y avoir une attaque, là où il va y avoir une intensité spirituelle, un combat spirituel très, très intense, très fort. Le texte nous dit, il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'invitation du Christ était claire, veillez et priez, mais il trouva endormi. Le texte nous donne cet indice. Je pense qu'on l'a exploré un peu hier, j'ai pas pu être là, mais le thème était cet endormissement. La chair est faible. Voilà, l'esprit est bien disposé, voilà, vous avez de bonnes intentions, vous avez pris des bonnes résolutions avec cette nouvelle année qui arrive. Voilà, vous êtes motivé, vous avez envie de bien faire pour le Seigneur, mais ce n'est pas suffisant. Votre propre volonté n'est pas suffisante pour ce qui vous attend, pour le combat spirituel qui vous attend. Car la chair est faible. Le mot grec asthénès, c'est vraiment un état de faiblesse. Vous êtes asthénique, anesthésié, perte de sensibilité, endormi. Vous êtes endormi. La tentation qui mène à notre chute, elle n'est pas tant extérieure à nous-mêmes. Les gouvernements, les sociétés secrètes, allez, le complot mondial. Je ne dis pas que ça n'a pas d'enjeu, mais finalement, la vraie tentation, le vrai combat concerne notre être intérieur. Cette nature faible, cette chair faible, cet être intérieur fragilisé, affaibli, en état de déficience spirituelle. Je crois que c'est là le vrai danger, finalement. Mon être intérieur, ma force intérieure spirituelle. Les autres n'ont pas tant de pouvoir sur vous, sinon celui que vous voulez bien leur accorder. C'est la force intérieure qui vous manque pour réaliser vos aspirations spirituelles. D'ailleurs, Jésus le dit bien, « Pierre, tu n'as pas eu la force de veiller avec moi. Tu n'as pas eu la force. Nous avons besoin de la force de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. » Pour être capable de veiller et prier. Le récit nous donne aussi un autre indice pour faire face à notre faiblesse. Jésus ne dit pas « veille et prie », mais il dit bien « veillez et priez ». D'ailleurs, le Christ ne nous demande pas de prier « mon Père qui est aux cieux », mais bien « notre Père qui est aux cieux ». Donne-nous mon pain, non, notre pain quotidien. Pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur, nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oh, si nous pouvions prier chaque jour, demander au quotidien ce pain et cette grâce de Dieu. Mais on voit ici que la dynamique de la communauté est essentielle dans le chemin de foi. Matthieu chapitre 18 dira au verset 19, 20, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » Il semble que c'est pas moi tout seul, c'est deux d'entre vous, deux ou trois. Il semble que la prière en petit groupe, la prière de groupe, la prière communautaire a une puissance particulière. Comme dans le couple, c'est une grande force pour le foyer lorsque les conjoints unissent leurs voix pour présenter leur vie, leur famille, leurs enfants à Dieu. L'appel de Pierre et de Jésus à ses disciples est de prier ensemble, veillez, unissez-vous, priez ensemble. Et c'est vrai que le texte est un peu triste, une forme de fatalité face à la faiblesse humaine, c'est que finalement il repart prier et quand il revient, il voit que la prière communautaire n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi à s'assembler pour prier ensemble, pour se soutenir et se supporter les uns avec les autres. Ils n'ont pas réussi dans leur faiblesse à s'unir pour s'encourager et se dire « tenons bon, allez Pierre, relève-toi, allez Jean, etc. » Ils n'ont pas réussi à vivre cette prière communautaire. Alors, parce que Jésus les retrouve toujours endormis. On pourrait se dire « mais quel échec de l'Église !» Cet appel du Christ au jardin à prier ensemble est resté vain. Et je dois vous avouer que parfois, en tant que pasteur, on a l'impression qu'on a beau faire des appels, d'inviter l'Église à prier, de venir aux réunions de prière la semaine, ou de créer des groupes de prière, des groupes de foyer en semaine. Mais il n'y a pas d'écho, l'Église n'entend pas, ne reçoit pas cette invitation à prier ensemble. Et on retrouve une Église endormie. Et face à cet échec de l'Église, on pourrait tenter de se décourager, de se dire, mais où est le salut finalement, face à une humanité totalement sourde et incapable de comprendre et d'entendre l'appel de Dieu dans sa vie, de la mettre en marche. Il faut prier, mais c'est toujours... Il faut toujours, mais on n'arrive pas à se mettre en marche, à le vivre. Alors, dans ce texte, et c'est ce qui me touche, je vois que Jésus prie pour l'Église. Il y en a un seul qui est éveillé dans ce jardin, face au sommeil de l'Église, Jésus, il tient bon. Il est tout seul, mais il tient bon, ce Jésus. Il tient bon pour qui ? Pour nous. Pour nous, il tient bon. Il ne s'endort pas sous la pression, sous l'anxiété, sous l'angoisse, sous la terreur qui s'annonce pour lui. Il tient bon dans la prière. Lui, il obéit à son Père. Il obéit là où nous n'obéissons pas. Il a la confiance là où nous n'avons pas confiance. Et c'est ça en obéissance et sa confiance qui nous sauve. Il est là. C'est lui, notre espoir. Il est notre sauveur, notre intercesseur. Il prie pour nous, aujourd'hui encore, comme il pria pour ses apôtres. Et on pourrait se dire, mais oh combien nous ne sommes pas assez nombreux pour vivre ce temps de veiller et prier. Peut-être un signe encore de cette Église qui a du mal à entendre cet appel de Jésus, cet avertissement, cet appel de Dieu, mais il est là, dans le jardin de nos cœurs, dans le jardin de notre communauté. Il est toujours éveillé et il prie pour nous. Et je crois vraiment que Jésus prie pour notre Église, pour chacun de nous, parce qu'il ne va pas faiblir, parce qu'il obéit à son Père. Et peut-être que la seule prière que nous pouvons formuler face à notre faiblesse, face à notre échec à aimer notre Seigneur, face à notre incapacité à rester éveillé et à le servir, peut-être que notre seule prière serait de prier Jésus, de prier pour nous. Et si on demandait à Jésus de prier pour nous, parce qu'on n'arrive pas à prier, et qu'il nous envoie sa force, qu'il nous donne sa force, parce qu'on est faible, qu'il nous envoie sa force, la puissance de son esprit, pour nous ressusciter, nous réveiller littéralement, nous réveiller, nous ressusciter de notre torpeur. Face à notre asthénie, notre seule solution est tous ensemble de prier Jésus. De prier Jésus qu'il prie dans le jardin de notre cœur, alors qu'il nous trouve endormis, afin que Jésus nous envoie le Saint-Esprit pour nous ressusciter, nous réveiller de notre torpeur, comme il le fit pour ses apôtres à la Pentecôte. Je conclurai sur ce texte, sur cette promesse qui demeure pour chacun de nous tous. Vous recevrez la puissance venant du Saint-Esprit sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Alors, prêt à relever le défi de cette Église vivante et pleine de grâce, bien, je voudrais qu'on puisse justement prendre ce temps pour prier Jésus, qu'il veuille bien, qu'il persévère à prier pour nous, pour notre Église. Amen. Je vous invite à un chant. Et...